Pentecôte. Sur quoi peut-on prêcher d'autre ce jour-là, si je vous apporte autre chose, et j'aurai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire qui n'ont pas de rapport avec la Pentecôte, quoique toute la Bible a des rapports, chacun des sujets a des rapports avec tous les autres, mais vous m'avez compris. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui reste à dire, puisque tous les ans, le jour de Pentecôte, on parle de Pentecôte. Alors, et pour moi, après plus de 70 ans de ministère, qu'est-ce que j'ai encore à dire le jour de Pentecôte? Bon, mais peu importe, je crois qu'il reste à dire, et que jusqu'à ce que notre Seigneur revienne, il y aura non seulement à dire, mais à corriger, même sur ce sujet de Pentecôte. Mon désir est peut-être d'attirer votre attention quand même ce matin spécialement sur le fait qu'une chose importante est généralement oubliée au sujet de la Pentecôte. En un mot, on oublie que c'est une fête juive. Que la Pentecôte n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête juive. Alors je disais en blaguant, mais ce n'est pas tout à fait faux, à notre ami Robert tout à l'heure, que vous saurez aujourd'hui que je suis vraiment un hérétique. Ah oui, la Pentecôte, c'est une fête chrétienne. Non, c'est une fête juive, mais elle s'est produite dans l'Église chrétienne. Dans l'Église chrétienne, non, on nous dit que l'Église chrétienne est née le jour de Pentecôte. Ah bon, je n'ai pas trouvé dans l'Écriture, mais c'est ce qu'on dit. Alors vous voyez que déjà vous savez que je suis un hérétique. Maintenant, c'est la preuve est faite. Comme c'est enregistré, on aura des armes contre moi, pas de problème, je suis habitué. La Pentecôte, disons tout de même quelques mots sur ce que c'était, une des trois principales fêtes juives, à l'occasion desquelles tout le peuple était convoqué à venir au temple et à louer Dieu, avec des sacrifices. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce serait trop long, mais vous pouvez relire le livre du Lévitique. C'est pas trop facile à lire parce que c'est un peu toujours des chiffres, le nombre d'agneaux, de bœufs, etc. C'est pas emballant, mais c'est utile. Donc, je vous laisse le soin, si vous voulez en savoir plus sur le déroulement liturgique de la fête de Pentecôte, lisez le Lévitique. Pourquoi l'a-t-on appelé Pentecôte? Parce que le mot Pentecôte en grec signifie cinquantième. Cinquantième quoi? Cinquantième jour après le jour de la présentation de la gerbe de reconnaissance des prémices qui tombait le jour que nous appelons le jour de Pâques. Donc, la Pentecôte est le cinquantième jour après Pâques. Vous le saviez sans doute. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle Pentecôte. Donc, c'est un rapport direct avec la présentation de la gerbe, c'est-à-dire la présentation avec reconnaissance à Dieu des prémices de la moisson. Et la Pentecôte est appelée la fête des moissons parce que précisément, en Palestine, à l'époque, le 50e jour après Pâques, les moissons, en tout cas celles du froment, se terminaient. Et on bénissait Dieu pour la moisson. On l'avait présenté à l'Éternel, maintenant on lui disait merci 50 jours plus tard. Elle s'appelle aussi la fête des semaines. Alors, la période qui va de Pâques à Pentecôte est appelée fréquemment, même en dehors des fêtes, la fête des semaines ou la période des semaines, littéralement des sabbats. Et c'est à tort, mais ça ne change pas grand-chose, puisque tous les jours sont à offrir au Seigneur. Notre dimanche était le lendemain du sabbat. Et quand nous lisons dans la Bible le premier jour de la semaine, c'est une entourloupe que nous devons à la nationalisation du christianisme à l'époque de Constantin. Oui, j'espère que je ne me trompe pas parce que les noms propres et moi, parfois, il y a des problèmes. Bref, il s'agit en fait, quand vous avez dans votre Bible la traduction « le premier jour de la semaine », il faut lire « le premier jour des sabbats ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Le premier jour des sept sabbats de la grande fête qui va de Pâques à Pentecôte. C'est le premier jour, donc, le jour même du sabbat. Et ça n'a rien à voir avec le dimanche, comme certaines versions modernes ont le culot de traduire le mot « sabbaton » en grec. Bref, ça c'est entre parenthèses, je sais que certains d'entre vous, peut-être beaucoup, n'aiment pas quand je corrige les traductions, mais si je ne le fais pas, je suis infidèle. Parce que si le Seigneur m'a permis d'avoir accès à l'original, ce n'est pas pour laisser des bêtises se propager. Bon, se propage sans moi et je ne les empêcherai pas, je le sais bien. Pardonnez-moi cette introduction que je n'aurais pas dû faire, cette parenthèse que je n'aurais pas dû faire. Bref, nous revenons à la fameuse fête des semaines, fête des moissons, Pentecôte. Tout ça vient du mot cinquantième. Je l'ai dit, je le répète, mais c'est en relation avec quoi ? Avec la moisson. Et ça, c'est le premier point que je voulais établir, parce que si on n'a pas compris ça, on a peut-être beaucoup plus de peine à comprendre le reste. La perspective de la Pentecôte, c'est la moisson. Et quand je dis la moisson, ça doit vous rappeler quelques textes bibliques bien importants, comme par exemple, quand Jésus dit à la Samaritaine, en Jean 4, connaissez ce passage, bien entendu, que regardez, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. D'autres textes encore peuvent être signalés qui sont très spéciaux, vous saurez pourquoi dans un petit moment, mais pour les références, il vaut mieux que je regarde mes notes. Mais je suis déjà perdu sur mes notes, un peu trop petit pour moi. Alors, il dit, donc ça c'était Jean 4, 35, il dit aussi, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça c'est Matthieu. Je n'ai pas mis la référence, c'est étonnant. Bref, mais c'est dans Matthieu que vous trouvez cela. Il y a encore un autre texte qui parle de moisson, mais il se trouve dans le livre de Joël. Et c'est intéressant parce que Joël et la Pentecôte, c'est lié. Vous avez compris pourquoi. Parce que le jour de Pentecôte, quand Pierre prêche, il explique ce qui se passe. Et pour l'expliquer, il fait une citation. Où va-t-il la chercher ? En Joël. Joël chapitre 2. Et cette citation, nous ne l'apprendrons pas de Pierre, mais nous y reviendrons dans un moment, mais nous l'apprenons dans le livre de Joël. Alors, j'ai mis un signe, je ne chercherai pas trop longtemps. Voilà, Joël, chapitre 2. Il est vrai que les versets et les chapitres de Joël ont été un peu changés dans les versions plus récentes. Alors, vous aurez peut-être un peine à un peu de peine à me suivre si vous avez une vie récente. Verset 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens, des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai de mon esprit, dit l'Éternel. Il n'est pas fini. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel aura appelés. Pourquoi vous l'ai-je lu en Joël? Parce que l'original vaut mieux que la citation. Je ne dis pas que ce soit le cas, mais en général, il vaut mieux l'original que la citation. Et effectivement, on découvre, vous l'avez sans doute remarqué un jour, que la citation que fait Pierre ne ressemble pas tout à fait, si elle ressemble fort, mais elle n'est pas textuellement le texte de Joël. En effet, Joël dit « Je répandrai de mon esprit », ça Pierre aussi, il ne dit pas « Je répandrai mon esprit », mais « Je répandrai de mon esprit », quelque chose qui appartient à l'esprit, « Je répandrai de mon esprit sur les serviteurs et les servantes ». Et Pierre ne dit pas ça. Pierre, citant le texte, dit « Je répandrai de mon esprit », ça il l'a respecté, ce sont nos traductions qui ne le respectent pas, « Je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes ». Bizarre, pourquoi? D'autre part, il parle, Joël, d'un jour grand et terrible, et c'est un mot très fort en hébreu. Et Pierre dit, ce jour grand et glorieux. C'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Une défaillance de la mémoire de Pierre, peut-être. Mais de plus, il ne cite pas la citation jusqu'au bout. Il s'arrête et il ne mentionne pas ce jour-là. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Et il n'ajoute pas « et parmi ou sur les réchappés que l'Éternel aura appelés ». Pierre ne dit rien de tout ça. Il a coupé avant. Et pourtant, c'est un tout dans la prophétie de Joël. Pourquoi? Je dis la mémoire qui ne m'a pas permis de se rappeler, non. Vous avez bien compris que je glisse une pointe d'humour quand je dis « la mémoire lui a sans doute échappé ». Non. Je ne sais pas si Pierre a été conscient des changements qu'il introduisait dans le texte, mais le Saint-Esprit qui inspirait sa prédication, lui, en était parfaitement conscient et certainement les avait inspirés, ces modifications. Pourquoi? J'aurais envie, mais je ne le ferai pas. Je vais vous demander, est-ce que vous l'aviez remarqué? Mais je ne vais pas vous demander de lever la main pour dire, moi j'avais remarqué. Mais j'espère qu'au moins quelques-uns d'entre vous avaient été étonnés de ce changement. La raison est simple. C'est que la Pentecôte, la fête des moissons, est le symbole de la dernière et grande moisson, mais que cette grande moisson finale qu'annonce le prophète Joël n'était pas encore arrivée. La Pentecôte n'en était qu'un avant-goût. Et l'Esprit n'était pas répandu abondamment, du moins. Ce qui est de l'Esprit, sa puissance, on le découvre lors de la Pentecôte rapportée par le livre des Actes, l'Esprit, sa puissance, n'était pas encore répandue sur tous les Juifs. Parce que c'est ça que Joël dit. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair du peuple auquel il s'adresse, son peuple, le peuple d'Israël. C'était pas le cas. Ce que nous appelons couramment la Pentecôte, comme s'il n'y en avait eu qu'une dans le passé, mais il y en a eu beaucoup, ce n'est pas le cas. Seuls les apôtres, les serviteurs et les servantes de l'Éternel ont été immergés, aspergés, je ne sais pas ce qu'il faut dire exactement, de la puissance du Saint-Esprit. Alors là, une nouvelle hérésie, hein, c'est pas la puissance. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit? Non. Je suis désolé, là, mon hérésie va apparaître de toute son horreur. La Pentecôte n'est pas le don du Saint-Esprit. C'est le don de ce que le Père avait promis, de la puissance du Saint-Esprit. En effet, dans vos Bibles, il ne faut pas aller loin en arrière, puisque c'est en Jean 20, au chapitre 20 de Jean, verset 23, l'apôtre rapporte que le jour de la résurrection, il est apparu à ses apôtres et il a soufflé sur eux, après leur avoir dit « la paix soit avec vous », il a soufflé sur eux et il a dit « recevez le Saint-Esprit ». Oui, mais peut-être que ces gens rapportant affaires qui se trompent et qui mélangent les dates. Peut-être simplement que Jésus n'avait pas compris et s'est trompé. Ou bien, il ne s'est pas trompé, mais le Seigneur n'a pas répondu à son appel. Il a dit « recevez le Saint-Esprit » et s'est loupé. Il a fallu attendre 50 jours pour que le Saint-Esprit soit donné. J'aime pas mon humour et je vous en demande pardon. Mais comment vous faire comprendre que depuis très longtemps, on n'ouvre pas la Bible les yeux ouverts pour voir ce qu'il y a dedans, mais on répète ce que la tradition nous a communiqué. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Et c'est une fête qui est en relation avec quoi? Avec ce que dit Jésus quand il dit « la moisson est blanche », priez le Père d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et quand il s'en va, qu'il monte au ciel, il dit, vous en souvenez, « attendez, ne quittez pas Jérusalem ». Attendre pourquoi et attendre quoi? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ne quittez pas Jérusalem. Ne partez pas encore pour la moisson aux extrémités de la terre. Parce que c'est ça. C'est ça l'ordre de marche d'Israël, de la nation d'Israël, les Juifs, en commençant par les apôtres de la circoncision. C'est à ceux-là qu'il dit, allez, faites toutes les nations disciples, pas faites des disciples dans les nations, mais faites les nations disciples. Et on pourrait pouvoir faire ça, comment on baptise une nation. Hein, parce que faites les nations disciples et baptisez-les. Comment est-ce qu'on baptise les nations? Si vous le savez, dites-le-moi, j'ai un peu de peine à comprendre à cause de mon oreille, mais je comprendrai votre réponse, ça m'intéresse. Donc, nous avons affaire à quoi? À un début, un avant-goût du travail qui est celui d'Israël et pour lequel Dieu a choisi Israël. Exode 19, verset 6, dit « Vous serez pour moi un peuple de rois et de sacrificateurs. » On peut aussi traduire « un royaume de sacrificateurs ». Et Joël, de son côté, complète le rôle quand il dit « Vos fils et vos filles, et même les gens les plus simples, les plus méprisés du peuple, les esclaves, parce qu'il emploie le mot esclave dans la traduction des Septante, même eux seront remplis de ce qui vient de l'Esprit, de ce que l'Esprit donne. Je le répondrai sur eux. Pour qu'ils soient capables d'accomplir leur mandat de peuple missionnaire du monde entier, depuis Jérusalem, la Samarie, la Galilée, la Samarie et les extrémités de la terre. C'est ça qui, je veux dire, j'avais dit, qui commence à la Pentecôte dite chrétienne, c'est ça qui commence. Non, c'est l'avant-goût qui se produit. Comme une promesse, voilà ce que Dieu peut faire. Et en effet, la moisson commence bien. Un discours, et 3000 âmes sont moissonnées. Seulement, voilà, pourquoi est-ce que la suite n'est pas arrivée? Mais parce que il y avait une condition à la suite. C'était la conversion de la nation d'Israël, la conversion du peuple. C'est ce que l'apôtre Pierre dira un peu après, quand ils vont au temple et que, par l'intervention des apôtres, un paralytique depuis 40 ans se relève et saute de joie. Il est guéri, il marche. Et Pierre, à la suite de cela, prononce son deuxième grand discours. On peut le reprendre, mais peut-être que vous le connaissez déjà assez, mais je le reprends tout de même. C'est donc le chapitre 3 du livre des Actes, et au verset 19, je lis « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes. Il fallait, pour que le plan normal de Dieu s'accomplisse et que Israël, choisi pour évangéliser le monde, se mette en route et vive cela, il fallait d'abord qu'il soit converti. Et ça, le Saint-Esprit le savait. Et quand il inspire Pierre, c'est parce que lui, le Saint-Esprit, sait, même si Pierre n'en a pas conscience, que la Pentecôte n'est pas le début de la grande moisson, mais seulement l'avant-goût, une sorte de promesse avant le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de grande moisson, que la prophétie de Joël va tomber dans l'eau et qu'il ne se passera rien, loin de là. J'ai été à l'écoute la semaine dernière de la prédication, j'ai remercié Michel qui nous a apporté une très bonne prédication. Il n'en voudra pas, j'espère, si j'apporte un petit supplément. Parce que il a dit, et ça se comprend tout à fait, que le texte ne disait pas de quoi Jésus a parlé avec ses disciples pendant les 40 jours qui séparent la résurrection de l'ascension. C'est dû à nos traditions. Si nous disons aujourd'hui que que Luc n'a pas rapporté de quoi il s'agit. Si, il l'a dit. Seulement, on donne aux mots des sens qui ne sont pas les sens premiers. Et ça complique la situation. En fait, Luc le dit, pendant 40 jours, il leur a parlé. Vous vous souvenez de quoi? Il a dit de quoi il les a enseignés. Luc le dit. Pendant 40 jours, il leur a parlé du royaume, des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ben, le royaume de Dieu, c'est vague, c'est pas clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'était très clair pour les Juifs, pour les apôtres et pour Jésus-Christ. Mais ce n'est plus très clair pour nous. Pourquoi? Parce que depuis des siècles, on a pris la place d'Israël et on a donné aux mots des sens différents de ceux qu'ils avaient lorsqu'ils ont été prononcés. Le royaume, pour un juif, c'était le règne messianique, la royauté davidique rétablie, le peuple restauré dans sa vocation. C'était cela au sens du Christ. Quand Luc écrit, il leur a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il leur a parlé de quoi? De la grande Pentecôte jubilaire. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est que le jubilé dans les fêtes juives? C'est tous les 50 ans, la 50e année. Et c'est l'année où tout le monde entre en possession des propriétés dont il a dû se défaire à cause de difficultés économiques quelconques, et où les esclaves qui ont dû se vendre parce qu'ils ne pouvaient plus vivre autrement retrouvent la liberté, ou les choses dont ils retrouvent la propriété. C'est ce qu'on appelle le jubilé, le grand jubilé. C'était tous les 50 ans. Et la terre n'était pas labourée, normalement tous les 7 ans déjà, elle ne devait pas l'être, et 50 ans, on vivait d'une récolte pour 3 ans. 50 ans, le grand jubilé, ce que tout juif pieux attendait, sans savoir quand ça viendrait, bien entendu, la grande moisson. Et alors, se passe ce que Pierre n'a pas cité, le salut est sur la montagne de Sion et à Jérusalem et sur les réchappés que le Seigneur appellera. Le fait qu'il est question d'un jubilé, c'est de ce dont Joël parle, d'un jubilé qui est à Jérusalem, sur la montagne de Sion et sur les réchappés, nous permet de comprendre une fois de plus qu'il s'agit bien des événements qui suivent le retour d'Israël dans son pays et qui est la cause, la source de la conversion de la nation. Pierre ne pouvait pas le dire, Pierre ne pouvait pas tout citer parce que le Saint-Esprit qui l'inspirait et la puissance que cet esprit lui avait communiquée quelques jours auparavant, seul savait que toute la période d'attente patiente de Jésus-Christ, qui a duré tout le temps du livre des Actes, que pendant tout ce temps, dans son ensemble, la nation juive s'obstinerait à refuser le message du Christ. Oh, il y a eu beaucoup de convertis, n'oubliez pas, même beaucoup de rabbins convertis, beaucoup de sages. Mais la nation s'est opposée jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à ce que, à la fin du livre des Actes, Paul cite Ésaïe 6, qui dit, parce qu'il en est ainsi, ils ont des yeux, mais ils verront point. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendront point. Et que Paul ajoute, c'est acte 28, verset 28. Voilà pourquoi, maintenant, je me tourne vers les nations, vers les païens, comme on peut le traduire aussi, et eux l'écouteront. C'est-à-dire que ce soit fini pour Israël. Alors, parce que là aussi, vous le savez, je ne vous apprends rien, avant de les quitter, sur la croix, alors qu'on le crucifiait, peut-être la croix n'était-elle pas encore dressée, mais on le mettait en croix, il a dit « Père, pardonne-le, ils ne savent ce qu'ils font. » Oui, mais c'était un gros péché quand même, on crucifiait le Messie. Jésus avait dit quelques jours auparavant, au moment de la résurrection de Lazare, « Moi, je sais que tu m'exhortes toujours, mais j'ai prié pour ceux qui m'entourent. Moi, je sais que tu m'exhortes toujours. » Ah, il n'a pas compris que là-dessus, Dieu ne pourrait pas lui obéir. Parce que Dieu avait décidé, semble-t-il, c'est ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, c'est pourquoi ce que je vous dis ce matin, vous n'êtes enseigné dans aucune école biblique ou faculté de théologie protestante, nulle part, et pas davantage dans les écoles catholiques. Et ce n'est prêché que dans bien peu de chair, je le crains. Parce que on nous impose une nouvelle manière de comprendre les choses et on nous dit que quand Dieu a choisi Israël, bon, n'attachez pas trop d'importance à ma traduction de ce que je dis là, pas la traduction de la Bible, mais de ce que je dis, que Dieu s'est trompé quand il a appelé Israël et qu'il a cru qu'Israël un jour serait capable d'évangéliser le monde. Alors il a dû se mordre les doigts quand il a vu qu'on crucifiait le Seigneur et dire, ben maintenant c'est fichu, qu'est-ce que je fais? Ben je vais inventer un nouveau plan, je vais faire en sorte que les païens puissent entendre et que les païens remplacent Israël. C'est une théorie officielle dans le christianisme, dans l'Église catholique depuis très longtemps, chez les protestants. C'est plus récent, mais le réveil de la fin du 19e avait permis un retour à la Bible. On l'abandonne de nouveau et on nous impose la théologie d'après laquelle l'Église a remplacé Israël. Alors du coup, plus moyen de comprendre la Pentecôte, plus moyen de comprendre le sens, plus moyen non plus d'en tirer les vraies conclusions pour notre propre vie. Mais ma conclusion, il est temps que j'arrive. Je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire, mais je ne veux pas abuser de votre patience. Je sais que je vous dis peut-être des choses qui ne vous sont pas faciles, qui ne sont pas faciles pour vous à accepter, à comprendre. Vous me pardonnez, j'ai beaucoup prié, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois leur dire? Mais on est le jour de Pentecôte. De quoi pouvais-je vous parler d'autre? Et que vous dire de ce qu'on dit toujours et qui n'est pas tout à fait exact? C'est difficile. Alors ma conclusion est celle-ci. Laissons à Israël ce qui lui appartient. Parce que tant que nous n'avons pas cette attitude, nous ne pouvons rien comprendre à l'Écriture. Aussi, les quatre lois spirituelles. Nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, Jésus-Christ a donné sa vie, il nous pardonne. Je ne sais plus si c'est tout à fait ça, les quatre lois, mais enfin ça y ressemble. C'est l'élémentaire pour qu'un pécheur puisse venir à Jésus-Christ. C'est très bien. Et il faut les employer. Mais l'Évangile, c'est pas que ça. C'est pas quatre lois. La Bible, c'est pas que ça. La Bible, c'est tout l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'on en comprend? Le jour où on prétend que l'Église a remplacé Israël et qu'il n'y a plus d'avenir national pour le peuple juif. Qu'est-ce qu'on peut encore comprendre? Mais ça met au rebut, j'ai envie de dire, les trois quarts de la Bible dont on ne parle plus. Disons, pour être sûr de ne pas exagérer, les deux tiers. Les deux tiers de la Bible sont des prophéties qui concernent le royaume de Dieu. Alors, évidemment, ça, il faut quand même, j'y revienne, pardon, je l'avais sauté, mais je dois y revenir, sinon vous aurez de la peine à me comprendre. Matthieu, qui s'adressait surtout, dont l'objectif dans son évangile était surtout les chefs religieux, s'était imposé de ne pas parler du royaume de Dieu, mais de parler du royaume des cieux, pour ne pas courir le risque d'employer le mot de Dieu en vain, ce qui est conforme à la loi de Moïse, bien entendu. On l'aurait certainement attaqué très vite s'il ne l'avait pas fait. Mais, chose étrange, quand il parle de l'âge messianique, il ne dit pas le royaume de Dieu, il dit le royaume des cieux, donc pour éviter le nom de Dieu. Mais quatre fois, étonnamment, quatre fois sur vingt emplois de l'expression, quatre fois, il dit le royaume de Dieu quand même. Il n'est pas difficile, si vous avez une concordance, faites le travail, je serai heureux que vous le fassiez et que vous le voyiez vous-même, vous découvrirez que c'est quatre fois où ce qu'il dit a un sens beaucoup plus large que le royaume attendu, le royaume messianique, la royauté de Davidique rétablie. Là, il est obligé d'employer le royaume de Dieu parce que ce n'est plus limité à ce règne rétabli que les prophètes ont annoncé. Et cela permet de comprendre les trois autres évangélistes ont toujours dit « royaume de Dieu ». Seul le contexte montre la différence. Mais le contexte est clair. Et je reviens, mais c'est presque, oui, on peut dire, c'est ça la dernière chose que j'essaie de vous faire comprendre avant ma toute dernière conclusion. C'est pour ça que nous savons de quoi parlait Jésus avec ses disciples pendant 40 jours entre la résurrection et la Pentecôte. Pourquoi? Parce que le contexte nous permet de le savoir. Luc disait royaume de Dieu. Est-ce que c'est la partie spirituelle qui n'a rien à voir avec le règne du Christ glorieux que nous attendons? Non. Il était question de royaume temporel. C'est de cela que Jésus a parlé avec les siens pendant 40 jours. Et s'il leur a donné 40 jours d'explication, ce n'était pas pour qu'ils le gardent pour eux et qu'ils n'en parlent pas. Et c'est même, je vous l'avoue, cette remarque que je me suis faite à moi-même qui m'a poussé à vous dire ce que je vous ai dit ce matin, à ne pas le garder pour moi. Je n'ai pas le droit. Il faut en parler. On n'en parle plus. C'est dommage. C'est très dommage. Vous avez un pasteur qui y croit. Et je pense qu'il en parlera chaque fois que ce sera utile. Mais, d'une façon générale, ça a été banni des perspectives d'enseignement. Et que c'est triste. On sait pourquoi que c'est ça, mais parce que le contexte le dit, un peu après, les apôtres se tournent vers Jésus et lui disent « Est-ce que c'est en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël ?» Alors bon, peut-être que Jésus était fatigué, mais qu'il a dit « Je ne veux pas faire de longs discours ». Il ne les a pas interrompus pour leur dire « Mais vous n'y êtes pas, mes amis ». Il aura pu leur dire, mais vous parlez de rétablissement d'Israël, mais c'est fini ça. Ils m'ont crucifié, c'est terminé. Il n'y a plus d'avenir pour Israël. Ils n'ont plus le programme, c'est fini la restauration, il n'en est plus question. Il s'est contenté de leur dire, c'est pas à vous qu'il importe de savoir quand ça va se produire. Merci Jésus, quelle sagesse. S'il leur avait dit, mes pauvres amis, oui, ça devrait être bientôt, mais le peuple ne croira pas, et cela sera reporté à une longue période de mise à l'écart. Où aurait été leur zèle, même avec la puissance donnée le jour de la Pentecôte? Je m'arrête. Qu'est-ce que nous avons en tiré pour nous? Une leçon capitale. Les apôtres avaient à attendre la puissance du Saint-Esprit avant de se mettre en route pour accomplir leur mission. Et nous, croyez-vous que nous puissions accomplir quelque chose de bon tant que nous n'avons pas reçu de l'Esprit le don qu'il fait de sa puissance? On en a besoin, non pas une fois pour toutes, parce que la Pentecôte n'est pas une fois pour toutes. Au chapitre 4 du livre des Actes, ça s'est reproduit. De nouveau, la puissance de l'Esprit a été redonnée à ses apôtres, mais elle allait leur être redonnée toutes les fois qu'ils en auraient besoin. Et nous en avons constamment besoin. Quand nous voulons témoigner, quand nous voulons manifester par notre manière de vivre notre appartenance à Jésus-Christ, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Si nous voulons partir par nous-mêmes avec nos propres forces, nous allons à l'échec. Que Dieu nous donne et affermisse en nous la volonté de dépendance de lui, de sa puissance par esprit. Notre Dieu, notre Père, la parole est riche, mais nous sommes souvent si durs à convaincre, si difficiles à éclairer, parce que nous sommes entourés des puissances démoniaques, sataniques, qui veulent cacher à tout prix la vérité, même à tes enfants, et qui parviennent en partie. Heureusement, tu es patient et tu es bon. Tu nous accueilles tels que nous sommes, même avec nos incompréhensions, nos erreurs et nos chutes. Merci de ta bonté. Dans le nom de Jésus.